Salut tout le monde, c'est Fils de Brasseur et mon ami!
Qu'en fut?
Hey Kev, c'est notre deuxième podcast de l'année, on s'améliore.
Ouais, on a été un petit peu terrible cette année. Je pense qu'il y a 56 millions de choses qui s'est passé de ton côté et mon côté. Écoute, ça me manquait, mais dans un autre sens, c'est un peu circonstanciel de la vie. Fitz, un million de projets qu'il a fait.
Et un million et demi.
Ouais, mais il n'a pas encore fini, mais de tous les podcasts, il n'y a absolument rien qui a changé. Fitz est toujours parti dans ses aventures qui n'arrêtent plus, puis travaille. Mais sinon, de mon côté, ben regarde, c'était moyennement tranquille, beaucoup de rénovations.
La question que tout le monde se pose, t'as-tu commencé à brasser?
Non.
Hein? Peut-être ça va te redonner le goût. On avait dit qu'on commencerait en 2023 à faire plus de podcasts, plus de tests avec les grandfathers. J'avais une belle cédule de fête. Écoutez, j'avais des employés au bar, j'avais des employés au brasseur. On avait tout setupé pour l'entrepôt pour pouvoir commencer à faire. Et ben, ça a commencé par un employé qui lâche au brasseur, un autre employé qui lâche au bar, là, trouver d'autres employés, trouver un employé pour le brasseur, lâche l'autre employé qui lâche pour le brasseur, l'autre employé lâche pour la fin de semaine. Je suppose avoir toutes mes fins de semaine de libre.
Ça n'est jamais arrivé.
Non, c'est jamais arrivé.
Ben, c'est ça.
Un dimanche, j'ai eu deux dimanches. Une fois que j'étais à Toronto, puis une fois que j'étais allé chez les beaux-parents, si je ne me trompe pas. Sinon, j'ai travaillé comme d'habitude 7 jours sur 7, sans arrêt. On a la nouvelle micro qui est ouverte à Chimiel Nature.
Oui, à Beauharnois. Et que ceux qui veulent arriver là-bas, normalement, Miel Nature fait vraiment du...
L'hydromel.
L'hydromel, merci. Et qu'il y a tous ses essaims, il fait sa propre récolte de miel pour faire sa propre hydromel. Et Fitz, en partenaire avec lui, parti totalement de A à Z la brasserie chez Miel Nature. Et c'est officiellement commencé. Il y a des premières bières qui viennent de sortir.
Ouais, il y a trois bières, on a une blanche, une blonde et une rousse. C'est de quoi de vraiment cool, c'est profil miel, t'as pas goûté encore, je t'en ai pas emmené pour tout goûter, Kev, j'aurais dû t'emmener, ça aurait fait un beau début de podcast, me semble.
Merci, merci d'avoir presque pensé à moi.
Ah, j'ai presque pensé à toi. Après, je suis allé cette semaine, je suis allé hier en plus, j'aurais dû empoigner, mais en tout cas, c'est ça qui se passe.
Ça, il est pas toujours dans mes pans, il pense pas toujours à moi. Là. Merci,
non, mais ben, j'ai même pas pensé, on faisait pas un podcast nécessairement sur la bière de miel nature. Fait que j'ai décidé j'ai oublié de l'emmener, malheureusement. Mais je crois que là, on pourrait le dire, là, on va repartir vraiment les podcasts. J'ai fait un horreur. J'aimerais ça qu'on en fasse comme avant, une fois par mois au moins, sans se mettre de pression, mais en ayant tout le temps une idée de s'amuser. Puis je pense que là, on va plus s'amuser. À la fin, on était un peu blasés. Je pense être obligé de les faire, puis avec tout ce qui se passait, le retour du COVID, puis l'humeur de Kev changeante. Pas de bonne humeur.
Puis quand ça marche pas, il n'y a rien qui marche, même avec la médication. Donc, il a fallu que je coupe un petit peu la boisson, il a fallu que je me reprenne un petit peu dans l'entraînement.
Elle a dit la vérité, il fallait juste que tu ailles en vacances.
Ouais, non, ça a aidé beaucoup. Je reviens de Cuba, j'ai goûté à des bons rhums là-bas, puis j'ai dormi, puis j'ai fait des siestes, puis j'ai dormi, puis j'ai fait des siestes. Fait que je te dirais que le retour a fait un énorme bien. Malgré tout, ben encore des projets de la maison. J'ai ceux qui m'ont posé la question la dernière fois, j'avais fait une bière. Est encore dans mon fermenteur. Je pense que le dernier podcast doit dater de 6 mois. Il est encore dans mon fermenteur.
Que 6 mois, je pense que ça fait 9 mois.
Tout est possible. Fait que j'ai encore de la bière officiellement dans mon fermenteur qui est en cold crash depuis des mois et des mois. Fait que oui, j'utilise mon électricité puis mon glycol pour rien, mais j'ose espérer de ne pas avoir perdu trop de saveur d'ici là. Puis que le fait qu'il est en cold crash, qu'il n'est pas trop en contact avec le lit qui est vraiment dans le fond, vu que c'est un en cône, donc ça devrait être pas si pire. Mais ça se peut que je crappe tout. Fait que je verrai, malheureusement, il y a du monde qui arrête pas de me demander « Quand est-ce que tu vas de la bière? Quand est-ce que tu vas de la bière? Ça me manque! »
T'as-tu recommencé à répondre au monde? Le monde, il pensait que je t'avais battu à mort, je crois, parce que tout le monde me posait la question. « Coudonc, Kev, il répond quasiment plus, on le voit plus rien faire sur les réseaux sociaux, faut vous sachiez quelque chose. » Mon ami ici, Kevin, il est pas comme moi. Les réseaux sociaux, c'est pas sa priorité numéro un, mettons. Fait qu'il aime partager les expériences de bière qu'il fait avec vous. Mais même, moi, j'allais dans mon personnel, puis si Kev met quelque chose, là, c'est probablement qu'il s'est fait taguer par un ami qui a tagué son ami qui a tagué l'autre ami.
Ben généralement, je pose pas grand-chose dans mon compte personnel. Fait que ceux, encore une fois, je l'ai déjà dit sur les autres podcasts, si vous me taguez dans mon compte personnel, prenez... Non, c'est Kev en fût, vous pourrez me trouver ce Kev en fût. Mais pour de vrai, j'étais tranquille depuis un an. Puis ça me manque, le fait qu'on a eu des godots chez nous, des rénovations. On a envoyé plein de matériel dans le sous-sol. Ma partie de brasse a comme été un peu...
chamboulée?
Oui, très, très chamboulée dans le sous-sol. Fait que les choses commencent à se placer. Ça va bien, plus de repos. Je suis super content de faire un podcast. Pour de vrai, je suis pas venu de recul. Ils me disaient, on fait ça. C'est comme, cool, ça fait mon affaire. Ça me manquait.
Ah,
ça
c'est cool.
Ça manquait.
Par où qu'on s'en va aujourd'hui? Première affaire que je veux vous parler, on a besoin de vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. On veut vous entendre. Pour cette fois-ci, utilisez l'adresse courriel régulier à info@letradionbrasseur.ca, s'il vous plaît, pour continuer les podcasts. Fait que si vous nous écoutez, soit en vidéo ou en podcast, audio seulement, c'est de nous aider à trouver peut-être dans quelle direction que vous aimeriez avoir les podcasts. Plus technique bière, plus dégustation comme qu'on fait depuis le début, plus encore grand public, aller faire des tests de levure, faire des tests de brassage, si on est capable, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera jamais des podcasts comme ça, mais c'est très, très demandant. Puis pour l'instant, je manque un petit peu de temps pour faire des gros podcasts de cette façon-là. On aimerait ça, avoir un peu vos idées, quel genre de bière vous aimeriez. Est-ce que ce serait le fun d'avoir un podcast spécial que vous amenez de la bière, puis on la déguste à l'entrepôt? Ça peut être quelque chose de cool aussi. Fait que si ça vous intéresse, dites-le en commentaire.
Le fait que ça fait quand même dans la troisième, quatrième année qu'on fait des podcasts, éventuellement, les sujets généraux ont été touchés. Ils sont toujours disponibles sur YouTube ou les sites de podcasts. Donc, les informations que vous avez besoin, on ne veut pas nécessairement se répéter sur les mêmes sujets. La bière n'a pas révolutionné depuis les trois dernières années que les méthodes de travail ont changé.
Ça, t'as un point, mon Kev. Là. Des fois, le monde m'a dit « Hey, ça fait longtemps que t'as pas fait une vidéo sur l'embouteillage. » Parce que c'est la même affaire. Là. Ça fait juste trois ans. Fait que je vais probablement faire des nouveaux vidéos parce que je suis pareil. Je le sais, quand j'écoute du YouTube, ça fait plus que deux ans. Quand ça fait 2, 3, 4, 5, ça fait 6 ans déjà le podcast, pas le podcast, mais le tutoriel comment embouteiller, on dirait que c'est plus d'actualité parce que c'est trop vieux. J'ai juste moins de tatous. C'est tout.
Ta barbe était aussi longue ou plus courte, plus longue?
Elle était aussi longue.
Elle était aussi longue.
Elle était aussi longue, elle était peut-être un peu moins maganée d'ailleurs, puis elle avait moins de blanc aussi dedans. Mais sinon, sinon c'est la même affaire. Mais oh, c'est vrai quand même, on a des nouvelles façons de discuter. Peut-être qu'on est plus à l'aise aussi devant une caméra que mon premier vidéo que j'ai fait dans ma vie. Fait que peut-être que ce serait bien de le refaire. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Deuxième chose, pourquoi j'ai besoin de vous? Puis j'ai besoin que vous... on a beaucoup de plateformes qu'on diffuse. Ça fait déjà... ça doit faire 5 ans qu'on... 4 ans et demi, 5 ans qu'on fait des podcasts. On a commencé dans mon sous-sol, tu te rappelles?
En 2020.
Puis... pas en 2001.
2020.
2020, 2019,
COVID.
2020. Non, c'est avant le COVID.
Avant le COVID.
Fait que l'hiver avant le COVID. Je paye pour envoyer les podcasts en podcast. Fait que si tu m'écoutes en podcast, ça me coûte de l'argent que tu m'écoutes. C'est simple comme ça. J'ai commencé à faire mes propres sites web. J'ai trouvé des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Et je peux me hoster moi-même pour faire mes podcasts. Fait que c'est vraiment cool. J'ai commencé avec la série de podcasts qu'on fait, Qu'est-ce qu'on boit. Fait que j'ai tout ôté mon host que je payais pour le hoster moi-même pour voir si ça fonctionne. Ça a l'air de bien fonctionner. Par contre, le podcast Qu'est-ce qu'on boit, il était un petit peu moins art large que le brasseur, parce que le brasseur, on l'a envoyé sur vraiment beaucoup, 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 beaucoup de plateformes. On est-il écouté dans toutes ces plateformes-là? Mais je sais pas. C'est pour ça que je demande votre aide. Si jamais vous voyez le podcast disparaître, on va le laisser encore un mois. Fait que ce mois-ci, il va rester là avec les nouveaux vidéos, si. Sinon, ça marche pas. Mais si vous voyez dans votre fil d'actualité le mois prochain que les podcasts du brasseur ont disparu, envoyez-moi un courriel à info@letradionbrasseur.ca. Je peux le dire plus vite si vous voulez. On va aller vérifier. Dites-moi sur quelle plateforme que vous êtes. Puis je vais pouvoir faire la correction et essayer d'emmener le feed RSS sur votre plateforme d'écoute. Comme ça, ça va m'aider. On va sauver des sous. Puis on va pouvoir investir ces sous-là par mois dans un autre projet qu'on a. Alors mon Kev, tu as décidé le sujet d'aujourd'hui. C'était?
Les bières trappistes. On avait jasé de plusieurs types de bières, mais en fin de compte, celle-là, on n'en avait jamais vraiment parlé. C'est quelque chose que le Québec a été très fort pendant plusieurs années. Ça l'a pas mal tranquillisé parce que le Québec a boomé dans toutes les possibilités de bières. Aujourd'hui, on est juste saturé d'IPA puis de New England IPA.
J'ai toujours été saturé.
Non, mais ça, c'est un goût personnel. Mais je veux dire, je vous donne un exemple. Même en Amérique du Nord, j'ai un ami qui était il était au Delaware. Il s'est promené dans les microbrasseries, il était voir Dogfish Head, il était voir plein de choses. Puis dans les bars, t'as environ 20 taps de IPA ou de New England IPA. Il dit, c'est juste de ça, peu importe. Que, moi, j'adore la variété, j'aime ça déguster, mais éventuellement, il donnait un nom, il donnait le pourcentage d'alcool, il donnait pas les houblons, le kit, puis là, tu vois des petites variantes de un à l'autre. Fait que, en tant que bon chum et plein d'amour, il est revenu à la maison avec environ une 24 de canettes de un peu partout des États-Unis. Puis après une douzaine de cannes, on dit, bon, on passe ça au vin, je suis plus capable de IPA, là.
Fait que c'est tout pour le podcast de Transpire, j'espère que vous avez aimé. Mais c'est ça, c'est un peu le problème aussi au Québec. De plus en plus, je vois mes clients au brasseur, au laboratoire du brasseur, venir et dire « Ah, c'est plate, on a beaucoup de IPA, on a beaucoup d'IPA partout, on a beaucoup d'IPA. » Puis ici, c'est le fun, on a d'autres choses à boire. Puis souvent, les IPA, ils sortent même pas tellement qu'ils ont d'autres choses à boire. Ils sont vraiment contents. Puis de plus en plus, on va voir que les brasseries vont commencer à brasser d'autres choses. Mais question 101, Kev. Ils peuvent-tu brasser des bières trappistes, les microbrasseries du Québec?
Les microbrasseries du Québec peuvent produire des bières style ABI, qui est un style belge, mais jamais la certification de trappiste.
Puis pourquoi ça?
Parce que dans les années 30, il y a eu un combat légal en Europe.
En 1960?
Ouais. Non, ben, en 1960, c'est là que ça a été cété. Parce qu'avant, il y avait des gens qui pouvaient copier puis d'appeler ça des trappistes, mais ça n'était pas.
Exactement.
En 1960, ils ont commencé à aller dans un débat pour pouvoir certifier que les trappistes étaient seulement brassés par des moines. Et ils ont créé un logo officiel. Oui, j'écoute.
J'ai l'air du prêt-toc, j'ai tout le droit d'en brasser.
T'es pas assez gros. Fait que eux maintenant, les bières trappistes officielles, ils ont leur propre homologation, ben, label qu'on va donner dessus, au même principe qu'un exemple, on regarde des vins appellation contrôlée de l'Italie. Vous avez
mais en réalité, une bière trappiste, c'est pas un style de bière, c'est une appellation de bière.
Oui, sauf qu'ils brassent un style, ben, dans la branche, il va brasser pas juste une bière, mais nous, par habitude, on a l'habitude d'appeler ça des bières belges.
Ouais.
Mais techniquement, c'est pas des bières belges. C'est juste parce qu'on a une association en cause des levures et le type de bière qu'on sait versus les esters, les goûts de la bière, on sait à quoi s'attendre.
Mais en réalité, une bière de trappiste, ça pourrait être une New England IPA s'ils décident d'en brasser. Ils pourraient l'appeler bière de trappiste.
Techniquement, oui. Mais sauf que tout le monde serait perdu, puis je pense que c'est...
Mais techniquement, il pourrait.
Il pourrait. Parce que l'idée, c'est qu'une bière de trappiste, c'est brassée par des moines avec une certification extrêmement serrée dans leur procédure de travail. Et le but était de financer les monastères. Et le but était pour ça. Si ce n'était pas pour faire de l'argent en tant que tel, c'est pour l'autofinancement.
Et pour aider les personnes dans le besoin. Il y a une partie qui aille à la population, communauté, pour aider. C'est un peu comme la dîme, mais version inverse. C'est rare que l'Église va faire le contraire.
C'est pas un don, c'est un achat.
Exactement. Mais là, au lieu de donner nous de l'argent, eux, ils vont aider les plus démunis avec cet argent-là. Puis je pense que c'est encore d'origine aujourd'hui. Ils sont obligés de donner une partie... pas en cadeau, mais en...
En redevance pour redevance. Aider les gens puis en même temps de s'autofinancer. Les bières belges sont très, très populaires. Les bières trappistes sont très populaires depuis plusieurs années. Tout dans les années 90 et 2000 au Québec parce que la SEQ faisait de l'importation et tu pouvais encore trouver des bières trappistes à la SEQ.
Petit fait cocasse. Kev, il a amené une bière à boire. Fait, j'ai vu qu'il en amène une. Je vais arrêter à la SEQ en chercher, tu sais, parce que... C'est cool, tu sais, il en amène une. Moi aussi, je vais amener quelque chose qui va fitter avec le podcast. Fait que j'arrive à la SOQ à côté de la boutique, puis ah, il n'y a pas de bière trappiste. Fait que ça reste comme ça, je reviens, je dis, bah, fuck, on va boire nos bières, tu sais, c'est pas grave. Kev, il arrive, il dit, je te lave la petite SOQ à côté de ta boutique, il n'y a même pas de bière trappiste.
Mais la majorité du temps, moindrement que vous avez une SOQ pas très, très petite, vous allez en trouver facilement.
Oui, surtout la Rochefort.
Oui, la Rochefort, moi, est un grand coup de cœur. La Rochefort 10 en particulier. Vous allez trouver la Westmalle, souvent la Orval, elle va être disponible.
Ouais.
Pendant un certain temps, on pouvait pogner la Trappe, mais pas la SEQ, parce qu'il y avait la compagnie Mons que eux avaient fait association pour l'importation, puis on pouvait trouver ces bières-là facilement dans les épiceries. Mais je pense que la Munz a disparu, puis j'ai plus jamais vu de la trappe depuis des années à l'épicerie.
Et que de, bon, je pourrais pas si... dire, ça fait longtemps que je suis pas allé acheter une bière à l'épicerie.
Je me demande pourquoi. Mais vu que c'est en importation privée, c'est les seules choses que vous ayez à avoir accès, à moins que vous faites un voyage en Europe pour découvrir les places.
Je le sais que probablement qu'il y a du monde qui nous écoute, puis la bière qu'on va boire, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit qu'il va en avoir tant qu'il veut. Ben, si je l'aime, on va te le dire si tu peux nous en envoyer par la poste.
Ouais, là, j'ai eu un très bon ami, Mathieu Lapointe, qui est propriétaire de la compagnie Papa Cochon. Que si vous regardez sur Internet, je vais faire un petit cue parce que c'est grâce à lui que j'ai cette bière-là. Papa Cochon Sauce, il fait les sauces fortes et de la sauce barbecue. Très bonne sauce, très goûteuse et non poussée sur le piment fort à l'extrême. J'étais faire un festival avec lui à Warwick il n'y a pas longtemps. Fait que pour me remercier, il m'a donné la West Flatteran 12, qui a été en Europe faire un petit tour, puis il a ramené des bières et il m'en a donné deux. Puis je n'ai promis une à ma femme parce que je n'en ai une pour le podcast.
Fait que je suis privilégié.
Ça, je peux le faire. La West Flatteran 12 fait partie des bières les plus rares, les plus appréciées au monde. Parce que le
théoriquement, là, c'est une des bières les meilleures au monde. D'après plusieurs oui. personnes. Et non seulement ça, mais quand tu regardais ce Red Beer et ces choses-là, je crois qu'elle est encore considérée comme la bière la meilleure au monde.
Mais il y a une chose qui est très particulière, c'est que, si un exemple, on parle des New England IPA chez l'alchimiste, par exemple, aux États-Unis. Le monde faisait des line-up, c'est la folie, puis ainsi de suite. Puis aujourd'hui, on a tellement la disponibilité des avoirs que c'est plus aussi spécial. Avec les premières New England IPA qui étaient dures à avoir, les gens faisaient des line-up. Puis plus qu'on a cette bière-là, plus qu'on m'en est, on passe à d'autres choses. Et que sachant que ça, c'est pas disponible au Canada, il y en a eu, il y a quelques années, le monastère a fait des rénovations. Puis le Canada a pu en avoir, à part la SEQ. Fait qu'il y a des gens qui ont été en Ontario faire un line-up pour être capable d'en avoir. Puis il y a du monde, ça n'a juste pas fonctionné. Mais la SEQ n'en a pas eu, parce que ça a l'air qu'au Québec, c'est toujours compliqué avec nos lois et nos façons différentes de faire les choses.
C'est quand même drôle d'avoir un QR bar sur une étiquette belge. C'est trapiste. Moi, je vois le frère Toc en train de brasser sa bière dans des tonneaux de bois, puis sur l'étiquette, il y a un code QR. Je trouve ça vraiment drôle.
Fait que je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si la caméra va bien le voir, mais quand on a parlé de l'appellation officielle, vous allez avoir en plein milieu qui est marqué Trappist avec le petit logo. C'est le logo qui doit être sur l'étiquette pour prouver officiellement que ça vient de cet endroit-là. Et que comme ça, les gens ne peuvent pas juste appeler ça Trappist parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient le faire. Fait que la West Flatteran, quelque chose de très cocasse, ceux qui, il y a plusieurs années, on avait les SEQ, la Saint-Bernardus 12, et, qui est une excellente bière. Là, je pense que je ne l'ai même plus vue dans la liste de la SEQ quand j'ai regardé dernièrement.
Je pense qu'elle n'est pas là.
Elle n'est plus là, mais je l'ai achetée pendant des années. Et à l'époque, il y a plusieurs années, la West Flatteran puis la Saint-Bernardus 12 étaient la même bière. Mais là, on parle de très longtemps. Parce que le moine qui a voulu aider celui qui a fait Saint-Bernardus, on travaillait ensemble, puis pendant un certain temps, c'est devenu la même bière. Avec le temps, c'est pas la même eau, c'est pas la même levure, les choses ont changé, mais on va pouvoir dire plus facilement disponible que c'est la bière qui va ressembler le plus à la West Flatteran 12. Fait que celle-là ici, c'est...
Moi, je t'ai mis le rouvre-bouteille à côté de toi parce que j'ose pas l'ouvrir. Je vais te laisser l'honneur de l'ouvrir parce que je trouve ça important que la personne qui rouvre la bière, là, c'est lui qui a apporté la bière, c'est lui qui la partage avec moi. Fait que c'est important. Tu sais, ça s'appelle avoir du respect envers ses...
Ou bien tu veux juste faire servir.
Ou je veux juste faire servir.
Vas-y, ma princesse.
Pour le monde qui me connaisse, des fois, j'aime ça me faire servir.
Ben écoute, quand c'est ta job, j'imagine que ça devient un peu redondant. C'est comme, ben oui, t'es habitué d'ouvrir des bières, servir des bières.
Je me prends vraiment comme une rockstar, là.
Ouais, garde-toi. OK, je vais te déposer mon micro.
Fait que Kev, il a été assez gentil, assez sympathique pour m'emmener cette bière-là. J'ai pas changé avec les années, hein. J'y parle encore nous, moi, mais c'est... C'est ça. Je vais lui montrer comment que ça marche, puis il va pouvoir l'ouvrir. C'est quand même pas pire. Il a réussi à enlever le bouchon, mesdames et messieurs. On l'applaudit, tout le monde. Ouais! Fait que on va voir la belle robe et la belle couleur. Est-ce que c'est une bière fermentée en bouteille, Kev?
Ça, c'est... Honnêtement, j'en ai aucune idée.
Non, 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 non. C'est sûr que c'est mis dans les barriques, tu te le quittes, puis que le vieillissement est fait. Ils font pas ça chez eux, là, dans leur sous-sol. Là. Ça marche pas de même.
Ils font pas ça chez eux dans leur sous-sol, les moines?
Dans le sous-sol, oui, mais pas...
Est-ce que tu penses que c'est une place que la c'est tamisé, les murs sont en béton, mais en roche, puis avec des tonneaux dans le troisième sous-sol en bas?
La majorité des monastères ne veut pas, c'est des... Écoute, je vais faire une petite parenthèse très cocasse. Là. Tout ce que vous allez voir en Europe, nous, on est tellement aseptisés. Un exemple, le fromage, les saucissons, tout ce qui est alimentaire. Nous, on est vraiment tout est puriste, tout parfait. Puis là-bas, ils font des produits extraordinaires.
Mais avec du vert dessus.
Ouais.
C'est pas du bleu. Ça s'appelle du fromage bleu. Fait que...
À 10,2%.
10,2%. On a une très bonne particularité dans ces genres de bières-là, surtout. C'est que c'est des bières qui vont aller retrouver souvent des fruits à noyaux. La prune, la poire, la pêche qu'on va retrouver au nez et au goût. C'est des styles de bières. C'est souvent des doubles, des triples, des quadruples.
Ça, c'est considéré comme une quadruple.
À cause du pourcentage d'alcool. Il n'y a pas quatre fois une fermentation de fête, les amis. Hein?
Oui. Vous allez voir souvent ça. Un exemple, la Rochefort. Vous allez trouver la Rochefort 6, 8, 12. On va l'appeler comme la Debelle, Tripelle, Quadrupelle. Au Québec, on a la Rochefort 8 et 12 et 10 à la SAQ. Je n'ai trouvé ailleurs aux États-Unis ou en Ontario de la 6. Les autres, la Rochefort, qui était comme genre de petite blonde très simple, je n'ai pas vu ici. Mais c'est super bon.
C'est vraiment
Écoute,
bon.
Écoute, pour dire à 10,2%, je m'attendais que ce soit plus lourd que ça. J'y ai déjà goûté, mais ça fait plusieurs années. Je m'attendais à que ce soit extrêmement lourd. C'est rond en bouche, extrêmement goûteux.
Et beaucoup de sucre résiduel. Beaucoup, beaucoup de sucre résiduel. La couleur, on est vraiment sur une couleur plus, je te dirais, rougeâtre, rouge sang. Pour moi, le moine, il s'est coupé en le faisant parce que... On est vraiment rouge, 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 là. Pogne-donc avec ta autre main. Regarde, mets la tienne. Ah, c'est refermenté en bouteille.
J'ai vraiment plein de cochonneries. C'est parce que c'est moi qui ai eu le fond de la bouteille.
C'est refermenté en bouteille.
On a répondu à notre propre question. Parce qu'en principe, normalement, la majorité des bières va toujours être filtrées ou quand que ça part directement de la fermentation dans des cuves de fermentation.
Sais-tu quoi?
Okay.
Moi, je m'ennuie de ce bout-là.
Qu'on se coupe, puis qu'on continue, puis on trippe.
Ouais, aussi. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je m'ennuie des bières comme ça, refermentées en bouteille. Te rappelles-tu, Kev, quand t'as commencé à boire de la bière de microbrasserie? Si je t'ai ramené une canne, t'aurais fait quoi?
J'aurais bu la canne demain.
Ouais, tu m'aurais dit c'est une bière de micro, tu m'aurais jamais cru.
Probablement pas, parce que les cannes, en début 2000, les associations vont être vraiment comme les bières commerciales. Slimane, Bud.
Si je t'aurais emmené une bière dans A12, ou A12, c'est ça? Type Labatt, là. T'aurais fait la même chose?
Je l'aurais bu à bouteille comme ça.
Tu vois, une bière de microbrasserie, c'était dans une 500, soit Long ou Sharkneck. Puis... Il fallait que ça soit refermenté en bouteille. Hey, si le micro aurait mis ça mécaniquement, on aurait fait comme « c'est même pas une vraie micro! » C'est peut-être pour ça qu'on tripe autant là-dessus.
Mais honnêtement, on a tellement été gâtés mais blasés à l'époque des bières style belge parce que c'est juste ça qu'il y avait de disponible facilement. On n'avait pas autant de microbrasseries.
Attends, on est loin.
Non, je le sais. Mais l'idée... Ben, moi, je vais parler d'Unibrou, par exemple.
On est loin d'Unibrou, c'est exactement ce que j'allais dire.
On est vraiment loin de l'Unibrou, je te l'accorde. Mais l'idée en arrière, c'est que vous allez voir une similarité versus certaines levures. La qualité, on est ailleurs, là.
Mais c'est pas qu'Unibrou font pas des bonnes bières de qualité. C'est pas ça que je dis, surtout pas dans le temps.
Non,
qu'aujourd'hui, ils ont peut-être modifié les grains. Je ne sais pas, je travaille pas chez Unibrou. Puis je connais pas leur recette ancestrale. Mais on est loin de la levure d'Unibrou. On est loin de la levure petite, un peu épicée, la levure belge-canadienne de Wyees. On est vraiment sur la prune. C'est plus la WLP 500 qu'on a présentement, là. Poire, prune.
Est-ce qu'on aurait des alternatives dans ces levures-là que c'est les gens qui voudraient brasser quelque chose de similaire?
Ben moi, je trouve, personnellement, on va la faire dans pas long, la double belge, je trouve que ça goûte l'arrière-goût de ma double belge, la WLP 500 de White Lab. Vraiment le même goût. Le problème, beaucoup des bières belges au Québec, c'est qu'on va dire que c'est Unibrou. ça, on va être porté à vouloir mettre l'emphase sur la levure du Nibrou, quand c'est pas vraiment ça. Une bière fruitée comme qu'on a présentement, c'est fruité au bout, là.
Oui, mais vraiment, on appelle ça en anglais des stone fruit.
Exactement. C'est pas fruité, fruit tropical. On est sur un fruit à noyau.
Cerise noire, prune.
Beaucoup de prunes. Je trouve beaucoup de cerises noires aussi.
Oui.
Avec la couleur, je ne m'étonnerais pas. Comme une genre de cric.
La cric, c'est pas surette, ça?
Oui, mais je veux dire la cerise qu'ils mettent dedans.
Ah, d'accord, d'accord.
La couleur, là. Okay. C'est plus foncé là, qu'une cric.
Ouais, il faut vraiment regarder proche parce que ça a l'air un brun très foncé, mais quand on a regardé avec la lumière, il y a un côté très rougeâtre qui ressort de là.
Fait que tu penses-tu que... Il y a moins, ils ont de la bière de même?
Ben, honnêtement, j'ai pas été sur place. Je sais que les gens qui vont là-bas sur place, c'est très compliqué parce qu'ils vont prendre les plaques d'auto. Tu as le droit d'acheter une caisse de 24 puis tu peux pas en racheter avant l'année prochaine. Parce que à cette brasserie-là de Trappist, ils ont décidé de pas grossir leurs équipements. Ce qui fait que ça reste encore une bière extrêmement rare parce que la production reste très limitée.
Penses-tu qu'ils boivent leurs produits? Puis ils vendent la balance ou qu'ils font juste, mettons, vendre pour rénover leur abbaye ou puis donner à la communauté parce qu'ils sont obligés de donner une partie de leur profit à la communauté. Mais ils n'ont jamais dit combien il faut qu'ils donnent à la communauté.
J'ai pas été plus loin dans mes recherches. Puis honnêtement, je les ai pas rencontrés. J'ai pas été sur place. J'ai pas posé des questions. Donc, rendu là, c'est juste des théories. Ouais. Logiquement, versus qu'est-ce qu'on goûte, n'importe quel brasseur passionné, que ce soit vous à la maison, que ce soit Fitz avec ses produits ou bien qu'est-ce qu'on goûte présentement. Les gens passionnés, ils vont goûter puis ils vont triper sur leurs produits pour s'assurer que tout est vraiment à la hauteur de la qualité pour se démarquer des autres. Fait que logiquement, oui, je suis convaincu qu'ils doivent prendre leurs produits, mais versus ouais, la
mais
quantité...
La question que je me pose, c'est... Le brasseur puis le maître brasseur, si tu veux, puis le monde qui fabrique la bière, c'est ceux qui vont goûter les produits. Mais les autres moines dans l'abbaye vont-ils être plus portés à boire du vin puis ils n'ont pas le droit d'en boire ou c'est comme occasionnel, comme à Noël, ils font comme « Ah, là, t'as le droit d'en boire parce que c'est Noël, mais sinon, t'as pas le droit. » Tu sais, ce serait le fun à savoir. C'est quelqu'un qui peut répondre à cette question-là. Je sais qu'il y a des Belges, probablement, qui peuvent répondre. Sur l'étiquette, c'est marqué 2 ans qu'on peut la conserver.
Ah, ben honnêtement, j'ai des genres de bières comme ça, j'ai déjà même conservé plus que 5 ans. Je me suis amusé avec des grosses bières, des faire vieillir. La Sainte-Bernadette, je l'ai fait vieillir environ 5 ans, puis j'en ai acheté une fraîche. J'ai ouvert les deux, un à côté de l'autre. Les deux, on n'était plus du tout dans la même game. Les deux étaient encore très bonnes. Les saveurs étaient là, mais il y avait juste beaucoup changé. Et moi, je vais me fier à un peu plus à ce qui est marqué sur leur étiquette, sachant que probablement qu'elle peut être à son prime après 2 ans. Après ça, peut-être ça va goûter différent, mais pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont comme idée de produit qui dit « Regarde, si tu fais ça, ça va être excellent. Si tu fais ça, ça va goûter d'autres choses, mais peut-être moins bon. » À vous de décider selon votre palette.
Fait qu'en réalité, à la maison, il n'y a pas une brasseur ou un brasseur amateur qui peut brasser une bière à l'abbaye. Par contre, vous pouvez quand même brasser le même style de bière sans l'appeler abbaye.
Non, c'est le contraire.
Un trappiste, je veux
dire. Tu peux pas l'appeler trappiste, mais tu pourrais l'appeler abbaye si tu veux.
Exactement. Parce que c'est souvent des bières d'abbaye, des bières trappistes.
C'est ça. Mais les gens peuvent appeler ça des bières d'abbaye. C'est juste pour... Ils ne peuvent pas l'appeler des bières trappistes pour ceux qui brassent ça. Très petit fait cocasse que Fitz a fait mention quand on dit que des gens qui nous écoutent de la Belgique, les trappistes, on a fait une association de bières belges, mais techniquement, les trappistes, il y en a un peu partout. Il y en a en Italie.
Pays-Bas. États-Unis?
Oui, mais là, j'ai lu comme de quoi que les États-Unis ne produisent plus.
Il y a quand même des trappistes là.
Oui, il y a quand même des trappistes là. Il y en a à la France aussi.
La Belgique, c'est sûr. Non?
Oui, et la Belgique, je pense qu'il y en a environ 5. Mais au total, c'était 12 ou 13 monastères qui pouvaient avoir l'appellation de trappiste. Et que c'est pas énormément pour le monde entier.
Non, là, c'est quand même...
Donc, on appelle ça des bières belges par habitude, mais techniquement, ça vient pas nécessairement
comme
de la Belgique.
Comme on disait, ils pourraient faire une New England IPA puis mettre leur logo dessus parce que c'est eux qui produisent la bière.
Sauf que j'imagine, versus les traditions, puis ensuite, ils font un excellent produit. Moi, je suis très heureux de...
Ah oui, non, mais je serais un peu déçu d'aller faire la file là-bas pour qu'il y a 12 brasseries dans le monde puis qu'ils me fassent une New England IPA. Je serais comme, c'est comme un peu poche.
Ouais. Mais pour de vrai, je suis Super content. Merci, Mathieu. J'ai très apprécié.
Merci, je suis content que Kev. Merci, je suis content que Kev soit venu t'aider. C'est super apprécié. Tu peux y aller quand tu t'as d'autres bières, il peut y aller n'importe quand. Tu sais qu'il a cancellé le podcast pour aller t'aider puisque j'étais trop en retard pour lui demander. Mais ouais, ça valut la peine, je pense.
Mais j'étais un gars de parole, j'y ai dit oui avant, donc.
Oh, mais c'est correct aussi, regarde, on se reprend aujourd'hui pour avoir autant de fun.
On n'est pas. Ben,
on a peut-être plus de fun parce qu'on boit une bonne bière.
Ouais, ouais. Ça l'aide énormément. Et que Fitz, si quelqu'un voudrait faire un style de bière, là, quel genre de grain qu'il prendrait pour reproduire ça?
On a du Degerman qui est disponible. Là, il faut savoir que les marques belges au Québec sont rendues, ça a toujours été cher, mais c'est extrêmement cher présentement. Fait qu'il y a le franco-belge et il y a Degerman qui est disponible pour faire ces types de bières-là. C'est sûr, si tu veux tricher, tu peux aller avec le grain de ABI de Wireman, qui est un petit peu moins dispendieux que le PLL de Franco-Belge, si tu veux, ou le Pilsner de Franco-Belge. Beaucoup de Spécial B. Fait que le Spécial B, on va aller chercher un côté un peu vineux, si tu veux, un côté vin.
Moi, j'ai toujours trouvé que la prune ressortait énormément dans le Spécial B.
Prune, vin aussi, le côté vin un peu, qu'on va aller rechercher aussi dans ces bières-là. Ça va donner aussi une belle couleur. C'est quand même assez foncé, le Spécial B. On est un peu plus haut que le... On est entre le caramel 120 et le grain Amber, si tu veux. Fait qu'on est plus vers le côté spec rouge que le côté brun du Amber. Mais on voit des goûts vraiment, vraiment bons. Certaines
mais
personnes.
Unique. J'ai trouvé ça, les goûts très uniques. J'ai pas retrouvé ce goût-là dans aucun autre grain.
Non, puis il n'y a pas de malterie qui le copie non plus. Fait qu'il faut vraiment aller avec du Degerman Spécial B pour avoir le goût du Spécial B. Puis c'est une brasserie, c'est une maltérie belge aussi. On a aussi un gros profil de levure qu'on va ressentir. Tu sais, le côté double, triple, quadruple, la particularité de ces bières-là, c'est les levures, c'est qu'est-ce qu'on va aller rechercher. Oui, le grain est important dans notre brasse, mais la caractéristique principale, comme dans la NIPA, c'est le houblon frais, les saveurs fraîches, les saveurs tropicales. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher le côté fruits et noyaux, comme qu'on disait tantôt. Puis sortir un côté prune avec du grain, là, à part le Spécial B, peut-être, là, qu'on peut pas mettre à 100%, c'est un peu difficile. Fait que c'est vraiment le côté qu'on va aller rechercher avec les levures. Puis là, les levures, vous avez le choix triple, double. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ABI parce qu'on aurait pu faire un démarreur, un starter avec le fond de la bouteille puis utiliser la même levure qu'eux, à moins qu'ils prennent une levure de refermentation en bouteille. Qu'est-ce qui se pourrait aussi?
Oui, je me rappelle bien. C'est quoi ton numéro?
F2.
La 4-2.
F comme François.
F2. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais si vous voulez vous assurer, il y a de la levure que vous pouvez utiliser en sachet. C'est de la levure sèche et vous n'allez pas utiliser la sachet complet. C'est que vous allez simplement rajouter un petit peu de levure avant l'embouteillage et que ça va donner un boost d'extra pour s'assurer que votre fermentation, une refermentation, parce que vous avez un petit sucre résiduel que vous allez rajouter dedans. Dans votre bière pour que quand vous allez caper une deuxième fermentation pour s'assurer d'avoir votre collet, la gasification.
Hey, ça prend. Le pire, c'est que je te regardais pour être sûr de pouvoir te reprendre. Et
la
te
gasification. Et que,
c'est mignon, mon
Mais
cas,
la majorité du temps, il devrait avoir assez de levure en suspens dans votre bière pour être capable de refermenter. Mais tout dépendant de ce que vous allez produire ou bien... surtout, je dirais, avec des bières à plus haut pourcentage d'alcool, ça se peut très bien que votre levure soit fatiguée aussi. Et que vous ne voulez pas manquer votre chose pour votre travail. Parce que si vous faites des bières à 10 %, c'est énormément de travail pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et que
oui, oui, oui.
Les choses à faire, Fitz, j'ai vu en arrière dans son...
oxygène.
Dans son bar, en arrière dans sa brasserie, qu'il y a une bonbonne d'oxygène. Et l'oxygène, t'as vu un gros changement dans tes brasses.
Ah, c'est incroyable, là, ça fermente deux fois plus rapidement. Le goût aussi est complètement différent. On a autre style, on a une Rush Beer qui s'en vient avec trois sortes de grains fumés à l'intérieur. C'est vraiment un délice. Kev, il a goûté tantôt, puis il était comme « Wow, cool. Ça fait vraiment du bien de boire quelque chose d'autre comme ça! »
J'adore les bières fumées, surtout que c'était juste balancé pour avoir une saveur. C'était rond en bouche, mais il n'y a rien qui était trop intense. Ça fait que j'aurais pu prendre un autre verre sans problème.
On a du pitmol là-dedans, là. Le gros fumé tourbé, là.
Non, ben pour de vrai, c'était excellent. D'après moi... Fin septembre ou d'ici environ fin septembre, elle devrait être sur les tapes ici.
Ça dépend tout le temps à quelle vitesse les tapes se vident, hein? Parce que présentement, elles sont dans la tank à gazifier. Fait qu'on peut la mettre en cake puis la mettre tout de suite sur les tapes.
Mais j'ai dit fin septembre parce que je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir. Et si je vous donnais une idée.
Ah ouais, mais le podcast devrait sortir assez rapidement parce qu'il fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Puis je trouve ça. Si on veut faire un podcast pour le mois d'octobre, il faudrait donner lui avant octobre. On est déjà rendu à mi-septembre, le grand.
Donc, les particularités au niveau de la fermentation. Là, tu as nommé certaines levures.
Oui.
Sauf que là, si moi je fais, par exemple, une bière à 10 %, qu'est-ce que tu vas me suggérer à faire pour s'assurer que j'ai le résultat voulu?
Ben, déjà, en partant, si tu as une bière à 10 %, tu vas avoir besoin de plus d'oxygène. Automatiquement, tu vas avoir de la difficulté à faire une bière que ta levure va bien contrôler si tu as la même quantité d'oxygène qui est dans l'air présentement. Dans l'air, on peut faire des bières environ à 5,5-6 % maximum. Fait que regarde le 4 % de plus qu'il faut que tu montes, là. C'est quand même assez énorme.
OK, mais si la majorité du temps, les gens disent « je vais brasser mon fermenteur pour oxygéner » ou bien « je vais mettre ma pompe à poisson là, pour là, mettre de l'oxygène ».
Il n'y a pas plus d'oxygène dans l'air qu'il y a dans l'air.
Donc,
ça prend une tank d'oxygène. Canadian Tire, des fois, des petites tanks d'oxygène qui sont là avec la petite baguette qu'on vend. Simplement, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir le calcul scientifique comme ici en arrière avec tout le degré qu'on va mettre, un point, blablabla. Vous pouvez y aller comme à main, puis ça va être déjà mieux. Deuxième chose, c'est le nombre de cellules de levure que vous allez avoir besoin.
Prenez en considération, vous avez souvent des calculateurs en ligne. Au pire aller, vous pouvez demander à Fitz versus la recette que vous voulez faire.
Normalement, là
c'est pas...
À 5 %, 6 %, un sachet, surtout les nouveaux sachets, simplement.
On parle d'environ de 180 milliards.
Entre 180 et 200 milliards là, pour 6 %, t'es amplement cellules. Correct. Après ça, si tu vas de 7 à 8, 9, je te conseillerais 2 sachets. Et 9 et plus, ce sera un bon 3 sachets au moins. Surtout, ça dépend de la date. Ça dépend tout le temps où vous allez chercher vos levures. Ici, on reçoit les levures, on les met tout de suite dans la chambre froide, on ne fait pas de gros chocs thermiques, on laisse la boîte fermée, après ça, on rouvre les levures, on les place, on les ramène dans nos frigos en avant. Il y a certains endroits où au début, quand j'ai ouvert, j'avais pas de chambre froide, fait que je les ouvrais, je les amenais, je pognais le sac, je les amenais tout de suite au frigo pour les faire tempérer. J'essaie de faire le moins possible de chocs thermiques. Ça l'aide les levures à se conserver plus longtemps. Puis j'ai la preuve ici, je brasse souvent avec des levures expirées. Puis j'ai aucun problème. Puis souvent, je sous-pitch. Je vais mettre une ou deux sachets de moins. Puis j'ai aucun problème d'atténuation. J'ai aucun problème de. Parce que mes levures sont en santé, sont bonnes. C'est sûr, si tu viens me voir, puis tu parles 3 heures avec moi au brasseur, ou tu viens ici, puis tu laisses ta levure sur le comptoir, puis tu arrives chez toi, tu le remets au froid, probablement que tu l'as affecté un petit peu ta levure. Fait que. Puis il y a d'autres. En droit, je connais pas tout le procédé de toutes les boutiques au monde parce que tu peux m'écouter de la France puis j'ai aucune idée c'est quoi le procédé que ton petit ami va faire. Mais souvent, essayez de respecter le plus possible les dates et d'aller avec les souches que vous avez. Levure sèche?
Moins stressant.
Mais moins de cellules. Fait qu'il faut en mettre beaucoup plus. Parce qu'il y a déjà 76 billions environ dans un sachet sèche. Quand on le réhydrate... Il y en a comme 25 qui meurent là-dedans. Fait que 350 billions. Puis les vieilles levures de White Lab et YAE, que tout le monde disait « Ah, il faut faire des starters avec ça! » On avait 100 billions.
Ouais, je pense que Fermentis, on n'est pas à 200.
Non, Fermentis, c'est 76.
76. Et que les choses à savoir, bon, c'est que si vous ne brassez pas tout de suite, assurez-vous que quand vous allez prendre votre levure, de le mettre dans le frigo chez vous le plus rapidement possible. Gardez toujours votre date parce que si vous pouvez la garder quand même un certain temps chez vous, mais plus que votre levure va vieillir, moins que vous allez avoir des cellules actives. Pas que les cellules sont mortes, ça devient inactive. Donc, si vous en avez besoin, si vous êtes équipé à la maison, vous pouvez faire des starters pour être capable de réactiver et de multiplier vos levures. C'est une façon d'acheter moins de
personnellement,
paquets.
Personnellement.
Mais c'est de la job.
Pas juste de la job. Écoute, le malt en poudre, l'année, il y a 2 ans, je le vendais 12 $ le kilo, mettons. Là. Ça doit être rendu 13-14 $ le kilo, qui est le même prix qu'une levure. Tu vas prendre un demi-kilo. Fait que tu as sauvé même pas 6 $ pour un risque de tout contaminer et de tout scraper. Je vois pas vraiment l'avantage, à part si tu as des souches particulières. T'sais, si tu me dis, OK, j'ai fait un starter avec le fond de la bière qui est ici, je l'ai gardé, puis j'en garde des souches, ou tu as la canadienne belge qui sort une fois par 10 ans. Puis tu veux la récupérer, là, je suis d'accord, ça vaut vraiment la peine. Mais une US-05 ou une A38 ou la Lover qui est tout le temps disponible partout, comme toi puis moi, puis toi, là, tu économises pas assez pour l'ouvrage que tu as à faire. Puis on n'a même pas parlé d'Alan Meyer à nettoyer. Fait que tu as un coût au nettoyage, tu as le temps, tu as le coût du matériel, de la plaque. La plaque à rotation, si tu veux, avec la petite pilule.
La centrifuge.
Là, c'est pas une centrifuge.
Non.
En tout cas, whatever, le stir plate. Puis on va avoir comme beaucoup de coûts reliés. Fait qu'avant d'économiser, tu vas vraiment, vraiment, vraiment avoir de la difficulté. Regardez, même en microbrasserie, même si les levures sont pour un BBL, 1,5 BBL comme que je fais, ça coûte environ. Si je ne me trompe pas, c'est 175$ de lover si je jette direct. Ça me coûte moins cher d'acheter mes petits packs puis les mettre. Puis il y a quand même des micros qui préfèrent acheter des gros packs déjà préfaits. Fait que ça vaut la peine de bien le faire puis de starter présentement en 2023. Là, faut t'as le goût.
Mais dans le temps, l'énergie, vous avez vu, l'économie est en train de changer. Tout coûte extrêmement cher. vous avez vu vos taux d'intérêt augmenter, ceux qui vont faire les maisons. Puis oui, j'ai vu en général le monde un peu moins brassé parce que c'est une passion. Les gens sont sortis de la pandémie. Mais là, c'est comme
l'épicerie. Ils sont tous comme toi.
Ben oui. Même moi, j'ai copé là-dessus sur l'énergie, le temps, puis ainsi de suite. Mais c'est pas un manque de passion. J'adore faire de la bière. J'adore faire ça. Mais en bout de ligne, c'est même moi, j'ai ralenti dans mes habitudes.
C'est un manque de temps, mais on prend le temps de. Avant, on prenait le temps de le faire. Pas nécessairement pour sauver de l'argent. Mais maintenant, avec la pandémie, on a tellement été comme tout seul chez nous pendant 2 ans qu'on veut faire, pendant les 2 dernières années, la même chose qu'on aurait faite dans les 2 dernières années à rester à la maison. Ça veut dire qu'on va 2 fois plus voyager, 2 fois plus aller au restaurant, 2 fois plus inviter du monde, qu'on manque 2 fois plus de temps pour faire nos choses. Puis je crois que présentement, la situation, comme tu parlais, des taux d'intérêt qui augmentent, le gaz qui est rendu... Ça me coûte tout le temps 100$, mais du gaz. Quand ça me coûte pas 100$, je me prends un gratteur, un 16,49. Fait que c'est incroyable comment ça coûte cher présentement la vie. Fait que ça va faire en sorte que peut-être on va moins sortir des restaurants. T'es allé manger au restaurant dernièrement, comment ça coûte?
Juste déjeuner nous a coûté environ 50-60$. Juste pour déjeuner. Et que par défaut, là, tu te dis, ben, au prix que j'ai payé, j'ai-tu un bon service, la bouffe était super bonne, ça vaut-tu la peine? Ben, j'ai commencé à faire plus de fumoirs à la maison, commencé à plus cuisiner, commencé à inviter du monde à faire ça différent. On sort un peu moins.
T'as juste repris tes habitudes que t'avais avant la COVID.
Ben, c'est parce... un peu ça, parce que Uber Eats était toujours chez nous.
Puis avant la COVID, là, t'étais tout le temps. Il y avait tout le temps du monde chez toi. T'invitais dans plein d'amis chez toi. Tu faisais plein de soupers chez toi. Tu partageais ta bière avec le monde, des jerky, tes bières fumées, pas des bières fumées, tes viandes fumées. Fait que je pense qu'on va revenir à la normale. Puis, je pense que les podcasts, c'est un bon exemple que ça va revenir à la normale. On est content de vous parler. Kev va recommencer à brasser pour vous inciter à brasser.
Faut que je montre l'exemple.
Montre l'exemple. On prêche par l'exemple, Kev.
Je te l'accorde. Je te l'accorde. Je te l'enlève pas.
Alors, mon Kev, si je veux faire ça à la maison, est-ce que tu vois d'autres choses que j'ai oubliées ou j'allais te la recette aux meilleures boutiques qui existent dans l'univers au complet? Tu peux-tu rappeler juste le site web, juste pour être sûr que le monde n'oublie pas? Hey, ça fait quand même pas loin d'un an qu'on n'a pas fait de podcast.
www.le-brasseur.ca.
Hey, ça, c'était un test pour savoir s'il se rappelait.
Du tiret.
Du tiret entre le et le brasseur. Admettons que tu vas au www.lebrasseur.ca, tu fais une belle recette de quadruple. On va y aller à 10%, on va être gentil. OK? Puis là, tu as écouté mes conseils, tu as pris 3 sachets de lover. T'es houblon un peu terreux, t'es allé chercher du grain belge. Ça va bien aller?
Ça dépend de quoi vous brassez à la maison. N'oubliez pas qu'une bière à 10% en général, c'est pas facile à faire. Si moi, j'utilise le Grandfather, si vous avez quelque chose de similaire, vous allez avoir les mêmes contraintes. La grosseur de votre cuve versus le nombre de grains, plus que vous allez mettre de grains, plus votre efficacité va baisser. Donc, ça fait beaucoup de grains pour ne pas faire beaucoup de pourcentage d'alcool.
Je te pose une question.
J'écoute.
OK. Je te pose une question. Parce que ça fait longtemps que je t'ai pas coupé.
Ça me manquait.
Ça fait 9 mois. Est-ce que je pourrais faire une bière avec un gros sucre résiduel, vraiment gros sucre résiduel, à environ 5 %. OK? Et de rajouter du dextrose pendant le boil pour ajouter un autre 5 %.
Techniquement, je vais dire oui. Le résultat, je suis pas sûr. Parce que du dextrose en tant que tel, c'est un sucre extrêmement simple et vous allez enlever toutes les saveurs. Moi, je pourrais dire que tu pourrais peut-être augmenter 1% d'alcool avec du dextrose.
Mais si ma bière est super crémeuse, super onctueuse, ça va rester identique?
Non, pas du tout, parce que là, honnêtement, vous allez le pourcentage d'alcool, c'est pas du sucre de malt. Et que vous allez enlever toutes les saveurs qu'on veut aller chercher avec le grain, le tenu de mousse, tout ce qu'on veut faire, puis ainsi de suite. Ça ne sera pas balancé du tout comme bière. Si vous voulez plus tricher, je vais dire probablement
malt en poudre.
Oui, du malt en poudre, qui est plus vraiment. C'est pas mal plus dispendieux à avoir et ça vaut-tu vraiment la peine.
On pourrait mettre aussi du miel.
Là, rendu là, on sort. Pour une bière générale, peut-être, mais sinon, on sort du style parce qu'on parle de trappiste présentement. Là.
Qui a dit qu'il ne met pas de miel à son bière?
Probablement pas.
j'ai mis les yeux que tu m'as fait. je le sais pas, mais.
Non, je le sais pas, mais l'idée en arrière, c'est que la majorité des bières avec du miel, je détecte assez facilement le miel parce qu'elle donne un goût un peu différent.
Oh oui.
Et là, le but, c'est de rester dans un style de bière. Dans le style des trappistes, des bières abbayes. Mais là, le pourcentage d'alcool que vous allez faire, moi, j'en ai déjà parlé sur un podcast précédent. La majorité du temps, avec un grandfather, vous allez vous organiser d'avoir à peu près un 6 % peut-être assez facilement. En haut de ça, c'est faisable, mais pas vraiment avec un sucre résiduel élevé. Parce que là, on joue avec les températures de mash. Donc, on va aller chercher un 67, 68 degrés Celsius pour aller chercher un sucre résiduel plus intense. Mais plus qu'on a sucre résiduel, moins on a un pourcentage d'alcool élevé.
Plus ça te prend du grain.
Ça prend énormément de grains. Et donc, on a aussi la capacité limitée de notre machinerie. Donc, la majorité du temps, qu'est-ce que moi, j'aurais fait, c'est de faire une double batch. Fait que pour aller chercher ça, je vais faire mon mash, je vais extirper l'eau, je vais faire un petit rinçage, je fais pas de mash out, j'enlève ça, je reprends du nouveau grain, je refais un autre mash, je fais un rinçage, je fais un mash out. Là, c'est comme si on a doublé. N'oubliez pas que plus que vous mettez de grains, plus que vous avez de l'absorption de l'eau et que vous allez perdre du liquide en partant parce que c'est énormément de grains. L'autre chose qui pourrait vous aider, c'est de faire une ébullition plus longue. Ça veut dire que vous allez perdre plus de liquide, mais le concentré va être là. Donc, vous finissez avec moins de bière, mais vous allez pouvoir monter votre pourcentage d'alcool, sachant que votre liquide est beaucoup plus concentré.
Sauf qu'on s'entend, là, si tu es à 5 % puis tu vas aller à 10, c'est 50 %
Et que vous n'avez pas le choix de faire en ça, mais encore là, vous allez gager selon votre efficacité du nombre de grains que vous avez. Et si vous mettez trop de grains, vous n'allez pas nécessairement avoir plus d'alcool ou bien de sucre que vous allez chercher parce que l'eau, la misère a circulé, donc vous allez chercher moins le maximum.
Je vous dirais, pour s'amuser un petit peu dans ces genres de bières-là, vous pouvez aller tricher avec un peu de dextrose. Pour moi, aller chercher 1 ou 2 % avec du dextrose dans un type de bière aussi élevé que ça, c'est quand même déjà pas pire. T'sais, si tu me dis que tu es capable d'aller extraire un beau 7, 7,5 %, puis tu rajoutes un 1 ou 2 %, tu finis vers 8,5-9 en dextrose, puis tu as un gros sucre résiduel, on s'entend, il faut quand même que tu ailles le profil du goût. Je pense que tu vas être quand même pas si pire. Je te dis pas d'aller faire un 5 % avec un 5 % là, de dextrose, mais on peut essayer d'aller chercher un petit sucre un petit peu plus simple parce que si tu as un gros sucre résiduel, puis comme Kev disait tantôt, tu vas chercher 1 ou 2 %, tu ne vas pas aller maganer vraiment ton goût. Mais tu ne peux pas faire du 50-50 non plus. Il faut rester réaliste dans le procédé à utiliser. Un double mash, comme qu'il dit, c'est parfait. Et c'est aussi la raison pourquoi que quand vous allez dans une microbrasserie et vous avez des bières plus hautes en alcool, on a le même problème. Ça coûte plus cher, c'est plus compliqué à faire et des fois, on est obligé de faire double batch pour avoir la même quantité de grains, la même quantité de liquide, de moût de bière à la fin. Fait que c'est pour cette raison-là que des fois, je vous dirais qu'on est un petit peu moins porté en enfer parce que vous allez en boire une bière à 10 %. Tu vas venir ici, là. On a bu un demi-verre chaque. T'aurais-tu pris 3 verres comme ça aujourd'hui dans le temps qu'on fait le podcast?
Pour de vrai, je suis rassasié. C'était excellent. Mais c'est tellement goûteux, intense, que c'est comme j'ai pris une demi-bouteille, je l'ai adoré. C'est bon.
C'est un peu comme un bon whisky, un bon scotch. C'est des bières. Puis on regarde, là, j'ai regardé tantôt 33 centilitres. J'étais comme, oh, on va en manquer, c'est sûr. Puis, tu sais, on a pris un demi-verre chaque, puis c'était correct. Tu sais, moi aussi, je suis rassasié. C'est comme bon.
T'as même pas fini.
C'est ma medal.
Ah, OK.
Mais, tu sais, c'est super goûteux, c'est super bon. J'aurais-tu pris une petite larme de plus? Peut-être.
Écoute, regardez les anciens, les autres podcasts avant. Regardez le nombre de bières qu'on prend versus qu'on a quasiment tiré tout le podcast avec une bière.
Exactement. Fait que t'sais, mais c'est plus goûteux, c'est beaucoup mieux. Puis c'est vraiment cool. On a décidé de ne plus avoir de partenaires d'affaires dans nos podcasts, à part un partenaire d'affaires qu'on a encore, mais deux.
Le Brasseur.
Et?
Fitz Café.
Et? Fait 300.
Le laboratoire du Brasseur.
On est au bord, on est dans la micro présentement, puis mon cave est comme lequel que j'oublie?
J'ai fait de la tour, là. Fait de la tour.
Fait que si vous voulez venir partager une pinte, c'est pas une pinte, c'est un 13 onces avec moi. Si vous voulez venir parler de bière, si vous voulez venir voir Kev, des fois il est ici, ça peut faire une belle surprise. Vous arrivez, puis Kev est là. Ah, Kev! Je vous conseille de venir au laboratoire du Brasseur. Alors, si tu es en Europe et tu nous écoutes, tu aurais le goût de venir prendre une bière. De l'aéroport au coin de ma rue, il y a l'autobus qui vient, fait que tu peux le prendre l'autobus, puis tu vas arriver directement au coin de la rue. C'est un petit 3 minutes de marche. Si tu marches un peu vite, un petit 2 minutes.
Puis de l'aéroport à ici, c'est environ 20-25 minutes.
En autobus, ouais, c'est à peu près, c'est direct. Fait que je vous dis. On fait-tu un podcast au mois d'octobre? T'es-tu prête à dire au monde qu'on fait un podcast au mois d'octobre?
Je sais même pas quand celle-là va sortir et que j'ai dur à mettre
Des
dates dans ma
bouche. Dans 3 jours, il sort.
On s'en reparle.
On est dimanche le 17 septembre. Fait qu'aux alentours du 20-21, cette semaine, on va se mettre une semaine là parce que j'ai du brassage à faire. À la fin de la semaine, le podcast va être sorti. S'il n'est pas sorti, je te paye un chat.
Ciao! Bonne grâce, tout le monde.